Et sans plus attendre, passons à présent à la partie débat critique de notre émission avec oui. Donc, yes ou ken en hébreu, tel est le titre bref du brûlot, de la satire, de l'attaque, appelez ça comme vous voulez, que mène ici Nadav Lapid contre les classes supérieures, militaires, financières et politiques notamment, de son pays d'origine, Israël, donc, où il ne vit plus depuis quelques années, mais où il a bien tourné ce film-ci. On y suit l'histoire de Y ou de Yod en hébreu, donc je pourrais probablement dire les deux au cours de l'émission, un chanteur artiste qui vit dans la précarité avec sa compagne et leur très jeune fils, mais qui est, pour des raisons assez peu développées et surtout par des facilités scénaristiques, très intégré dans la bonne société tel-avivienne que Yod et son épouse fréquentent dans des soirées orgiaques et décadentes à base d'actes sexuels mimés ou non, de musique eurodance et de montages survoltés. C'est dans l'une de ses teufs que Yod fait la rencontre d'un oligarque russe qui lui propose de composer un nouvel hymne national pour l'État d'Israël, qui consiste en un détournement belliciste et génocidaire d'un poème israélien célèbre et à mille lieues de ses occupations-ci. Commence alors un apprentissage de la soumission et du consentement à l'inhumanité pour Y, qui accepte ce pacte grossièrement faustien pour de l'argent, enfin je crois, parce que la promesse, c'est plus une promesse d'argent qu'autre chose, hein. Et d'ailleurs plus j'y réfléchis, plus tout est vraiment décousu dans le scénario et le storytelling de Oui. Ces états d'âme le conduiront tour à tour dans une société post 7 octobre, sur un yacht avec un homme dont la tête peut se changer en écran, à lécher les oreilles d'une vieille bourgeoise pour lui donner un orgasme, à s'enfoncer dans le désert avec son ex pour trouver l'inspiration, à lécher littéralement des bottes dans un déferlement de vulgarité qui se voudrait baroque et cynique, mais qui est d'abord et avant tout épuisante, cette vulgarité. Le film durant 2h30 et se dénonce aux spectateuristes comme une séquence de brain rot. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce phénomène, c'est le sentiment d'abrutissement numérique qui naît des séquences prolongées que l'on peut passer sur son téléphone et sur les réseaux sociaux, par exemple à regarder des Reels sur Insta, des TikTok ou des YouTube Shorts, soit des images brèves, répétitives, stimulantes, allant travailler quelque peu le circuit de la récompense, caractérisées par une intensité émotionnelle et peu coûteuse en effort cognitif. Je reprends ici Wikipédia. Bah c'est ça, oui, 2h30 sans intérêt où les scènes se succèdent comme les réels sur Insta, où des meufs qui dansent cèdent la place à des figures absurdes, puis à des artistes amateurs qui jouent du piano, entrecoupés par moments d'actualités graves sur Gaza. Car c'est bien ça, le pire, c'est la prétention du film à parler non seulement de la décadence de la société bourgeoise et hyper libérale, télavisienne mais en réalité hyper occidentalisée, mais c'est non seulement sa prétention à en parler, mais aussi son envie de le faire dans le cadre de la guerre génocidaire que mène Israël en Palestine. Qu'il faille en parler au cinéma, il n'y a aucun doute là-dessus, et le conflit post-7 octobre devient d'ailleurs un objet de cinéma énorme, beaucoup plus que la guerre en Ukraine. Qu'il faille le faire sur un ton qui n'est pas forcément documentaire, pourquoi pas. Qu'il faille donner à cette fiction un ton qui n'est pas forcément grave ou sérieux, rien ne l'empêche, mais là, ici, tout se mélange, tout déborde et tout rate, et fait de ce film un échec pénible qui se concentre trop sur sa forme baroque, qui se voudrait peut-être une résistance au conformisme ambiant, et pas assez sur l'histoire qu'il nous raconte, déployant des personnages sans consistance et des clichés narratifs terribles, je pense notamment aux personnages féminins, qui sont deux, qui sont ratés, ou clichés plus exactement, et des scènes troublantes, sinon vraiment dérangeantes, qu'on pourra évoquer avec, par-dessus tout, un regard surplombant du metteur en scène qui juge tout le monde. Enfin bref, c'est assez insupportable, mais je vais vous demander vos avis avant qu'on revienne en détail sur oui. Est-ce que Nathan, pour ton retour à cette tribune après plusieurs mois, tu vois, tu as dit oui à Nadav Lapid?
Non mais tu vas tuer Aubry là, parce que déjà je ne vois que tiquer depuis que tu as ouvert la bouche.
Oui, c'est vrai qu'on est à la radio, mais il tique pas mal.
Et le fait est que moi je vais plutôt aller dans ton sens, donc bon, voilà.
Le pire c'est que il y a une part de moi qui est d'accord avec vous.
Mais ne spoilons pas vos avis.
Ouais, je trouve que c'est vraiment un film très bizarre. Moi je me sentais un peu floué en fait. C'est-à-dire que après c'est vraiment ma faute, c'est que je savais pas trop ce que j'allais voir. Enfin je savais que ça allait parler d'Israël, du génocide à Gaza et du notamment enfin de voilà la société israélienne depuis le 7 octobre, etc. En revanche, j'étais moins conscient des conditions de production du film, et notamment, quand je me suis installé dans la salle et que j'ai vu les logos des ministères israéliens dans le générique du début, j'avais un peu le seum. J'avais un peu le seum d'avoir payé ma place et donné un petit peu, peut-être, d'argent du coup à cet état. Voilà. Après, ceci étant dit, le film en lui-même, je saurais pas trop par quel bout le prendre. C'est très peu digeste, je trouve. Ouais. C'est quand même, il y a effectivement, c'est ce que tu dis, il y a un flux d'informations, un flux de
d'images.
Un flux d'images, c'est assez et en même temps qui montre qu'il y a énormément d'idées aussi. Hein. C'est un film qui déborde littéralement d'idées. Tu parles, par exemple, il y a cette scène effectivement sur le yacht avec ce gars dont le visage se transforme en écran. Enfin, genre, c'est assez assez lunaire, et ce côté un peu indigeste, d'aucuns argueraient que peut-être c'est la marque des grands films, ou des films qui en tout cas formellement montrent quelque chose, essayent quelque chose, proposent quelque chose. Il y a une proposition, ça c'est clair. Après, je trouve que ça donne un film effectivement très indigeste. Et dans le contexte actuel, dans ce que le film traite, dans ce que le film veut énoncer, dénoncer, montrer, ça me met un peu mal à l'aise, parce que du coup j'ai l'impression qu'on m'en met plein la figure pour me détourner le regard, en fait. Et en un sens, c'est assez cohérent, parce que c'est aussi le sujet du film, comment détourner le regard, comment vivre dans un déni, etc. Il y a quand même énormément de moments où on oublie quand même qu'il y a eu un 7 octobre, hein, dans ce film. D'ailleurs, moi, je pensais que le film allait commencer avant le 7 octobre et qu'il allait avoir un moment où le 7 octobre arrivait et qu'on rentrait dans une deuxième partie du film. Et en fait, non. J'ai été surpris de comprendre petit à petit que, en fait, dès les premières minutes du film, on se situe après le 7 octobre chronologiquement. Donc c'est l'idée, enfin c'est le propos du film, voilà, de montrer ce personnage qui se voile la face, et il y a des moments où il y a des incursions, où il y a ces espèces d'introspection en voix off, où il parle quand même de son rapport à cet événement, mais très vite c'est éludé parce que il détourne le regard. Je comprends du coup l'idée, je comprends le propos. Moi, ça me met un peu mal à l'aise, parce que j'ai l'impression que dans le contexte actuel, l'urgence c'est plutôt de montrer et pas de montrer les gens qui veulent pas regarder. Alors le film montre aussi, hein, mais bon, on y reviendra, mais la manière dont il montre, moi, ouais, vraiment je peux pas, ça c'est un autre sujet, voilà. Mais globalement, film très bizarre, film surchargé, et qui du coup politiquement, moi, me pose un peu question, quoi. Voilà.
Ouais, effectivement. Effectivement, on pourra revenir aussi sur cette question de la surcharge et de la longueur du film. Aubry, donc on a un peu spoilé ton avis.
Pas de souci.
T'es peut-être pas dans un oui franc, mais t'es peut-être plus dans un oui que nous.
Oui. Pour filer la blague.
Habile.
Mais, comment dire, en fait, là où je suis d'accord avec ce que vous avez tous les deux dit, c'est que le film est trop. Il tente trop de choses, il déborde de trop d'éléments. Il déborde d'effets, même de thèmes, d'intrigues, il déborde, il est trop. Et en plus de ça, il y a ce côté effet sursouligné. En fait, le film se veut pas aimable, et de fait n'est pas vraiment aimable. Et ça, donc ajouté au fait que ce soit un film trop, ça fait que du coup c'est assez compliqué d'en parler, parce que en fait on a du mal à savoir par où le prendre, parce qu'en fait on peut le prendre par un peu tous les bouts. Donc je vais rebondir un peu à gauche à droite sur ce que vous avez dit, sur la question de la production du film, dont de toute façon je pense on aura l'occasion de reparler. C'est assez symptomatique, en fait, de ce qu'est le film, c'est-à-dire un objet problématique en tout point, et pas problématique dans le sens forcément négatif, mais
qui pose des problèmes,
des partout. Ouais. Et en fait, c'est vrai que quand on voit les logos des différents ministères ou fonds cinématographiques israéliens au générique, on se pose des questions. En fait, ces questions, on trouve une réponse assez vite quand on peut écouter les différentes interventions oui. d'Andav Lapid, enfin que nous, on a pu rencontrer avec lui, et que moi, j'ai pu écouter après, où en fait, il explique que dans en fait, ces fonds israéliens, alors effectivement, il y a des trucs ministériels et des trucs publics qui, pour le coup, dépendent du gouvernement.
Et il y en a d'autres qui luttent encore contre.
Et voilà, et il y en a d'autres qui
sont des organes de résistance culturelle.
Voilà,
au sein de l'État d'Israël.
Ou en tout cas, font au moins un état de figure d'indépendance là-dedans. Il mentionnait notamment un des, le principal fonds, je pense, du coup.
Et celui qu'il a eu.
Et celui qu'il a eu.
Parce que l'autre qui est.
Et qui est notamment le festival du film de Jérusalem, qui avait reçu en gros des demandes explicites de la part de ministres israéliens de déprogrammer le film, et la directrice de la programmation du festival avait décidé d'ignorer les lettres en question et de maintenir le film. Donc là, le film en fait est dans une position compliquée, parce que il est dans cette position retorse où... il se veut critique d'un système, d'un pays, d'une population, de tout un état, de toute une situation en fait. Et en même temps, il émane de ce même état, parce qu'au-delà des financements, il y a la question du fait que le film est tourné à Tel Aviv, du fait que le film est tourné en Israël aussi, entre guillemets, comme si de rien n'était, même si c'est pas vrai. Et qu'en fait, au fond, la seule solution là-dedans, ce serait un autre film, un film beaucoup plus clandestin, entre guillemets, et qui, pour le coup, serait libéré de ces contraintes-là. Donc, il y a ça.
Oui, vas-y. Tout à fait. Et puis, pour rebondir là-dessus et sur la question de la production, je trouve quand même intéressant et important qu'il y ait cette question de... Enfin, qu'il ait touché ces fonds-là et qu'il puisse continuer à s'en servir pour mordre la main qu'il nourrit. Parce que, pour le coup, en dépit de plein de problèmes que je peux avoir avec le film, il a un courage que plein de gens dans la société où il vit n'ont pas. Non pas. Alors maintenant, après l'exécution, on peut en penser ce qu'on veut, et j'en pense vraiment pas énormément de bien, mais il y a cette, disons que ça fait partie de des problèmes que pose le film et qui le rendent en tout cas un objet intéressant à discuter.
Ouais.
Ça fait pas. Oui, voilà.
Non, bien sûr.
Ces contradictions là fécondes.
Et puis l'autre point aussi sur lequel je vous donnerai raison, enfin en plus de ce qui a trait à la production du film et à son côté insupportable, c'est effectivement certaines parties de l'écriture de certains personnages, et en particulier des personnages féminins, qui effectivement, même si comment dire, c'est pas tout noir non plus, sont quand même assez limitées à des clichés en fait, ou à des ressorts scénaristiques plutôt mécaniques et disons moins habités que d'autres personnages ou d'autres pans du film. Après voilà, moi ce qui m'intéresse dans le film, je vais pas dire me passionne non plus, mais ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, c'est la question qu'il pose en fait, c'est-à-dire que comme tu disais Nathan, c'est un film où même moi, tu vois, quand je suis allé le voir, je savais pas trop ce que j'allais voir en fait, et surtout j'étais persuadé que c'était un film sur le 7 octobre en fait, et ce que nous a expliqué Nadav Lapid après, c'est qu'à la base c'est pas un film sur le 7 octobre, c'est un film dont la production, l'écriture, oui. etc. a été traversée par le 7 octobre et,
mais il était écrit avant,
voilà, et plus largement par en fait la reprise et l'escalade sans fin de la guerre et du génocide à Gaza. Et du coup, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, on peut dire que, comment dire, il serait plus pertinent de faire un autre film ou un autre type de film. Mais disons que je trouve que sur ce que tente le film, c'est-à-dire en fait d'insérer, enfin de se poser la question de comment on représente le 7 octobre, comment on représente Gaza et comment on représente plus globalement toute cette situation dans une fiction. Qui porte pas principalement sur ce sujet-là. Là, je trouve le film, rigoureusement intéressant, précisément parce qu'il choisit la fiction pour le faire. Il y a plein d'éléments d'écriture et de mise en scène qu'utilise Nadav Lapid pour faire ça. Il y a tout ce côté satire en fait de la société israélienne. Que lui en fait décrit pas comme de la satire, mais comme en fait un miroir. Alors il appelle ça du réalisme / néo-réalisme. Je pense qu'il pousse le bouchon quand même. Enfin, je veux dire, ce serait renier son propre film. Mais en tout cas, on sent son intention là-dedans, qui est l'idée de dire, justement, ce film mal aimable en tout point, en fait, quelque part, c'est la société israélienne, et surtout, aussi par rapport à des trucs que j'ai pu lire sur le film, mais ce sera mon dernier truc, c'est qu'on a beaucoup dit aussi que le film se réduisait en gros au périple ou au trip d'un artiste un peu égotique, etc. Alors qu'en fait, précisément, et c'est là où pour le coup, moi je suis d'accord avec ce que peut dire Nadav Lapid de son film, pour moi c'est un film qui en fait... met en cause la société israélienne dans son entièreté, du plus haut responsable au dernier kidam. Et en gros, il disait, moi ça m'intéresse pas, enfin Nadav Lapid nous disait, ça m'intéresse pas de faire un film pour bâcher Netanyahou en gros, parce que entre guillemets c'est évident, mais ça m'intéresse beaucoup plus de pointer la responsabilité dans cette forme de consentement que centralise le film, de toute la population israélienne.
Mais, et on peut revenir là-dessus, est-ce qu'il y arrive ? Parce que je trouve qu'il se concentre quand même vraiment sur une caste. Et après, je veux dire, on peut discuter, aucun de nous n'est israélien, on n'est vie à Tel Aviv, etc. Donc, je ne sais pas quelle est exactement la société israélienne, mais là, ce qui est clair, c'est que, même si, effectivement, même dans les propos qu'il a pu tenir avec nous quand on l'a rencontré au Comédia, il veut... critiquer toute la société. Dans les faits, moi, ce que je vois surtout, ce sont les teufs avec cette espèce de vernis cynique qui plaît énormément au festival, en fait, hein, de côté. Je vais vous montrer ce que vous êtes. Alors, pas forcément, donc... l'équipe du Festival de Cannes n'est pas la caste militaire ou politique israélienne, mais je veux dire, c'est un peu le même cas de ce que je sens des films de Ruben Östlund. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, ce côté, voilà, moi, ce que je vois chez un Ruben Östlund, par exemple, de critique de la décadence, par encore plus de décadence, par encore plus de drogue, de sexe, etc. Et au fond, moi, je le vois pas, le kidem, dans le film de Nadav Lapid.
Oui, ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Moi, c'est un de mes problèmes avec le film, c'est que globalement, enfin, c'est même politiquement le plus gros problème que j'ai avec le film, c'est que vraiment, moi, en regardant le film, j'ai l'impression qu'il met la charge de la responsabilité du génocide et une espèce d'inhumanité complètement déconnectée vraiment sur les épaules d'une oligarchie parfois qui n'est même pas israélienne, parce qu'il y a le personnage joué par Alexei Serebryakov qui est un oligarque russe, donc il n'est même pas, enfin, et du coup je trouve ça assez étonnant cette idée d'avoir aussi voulu montrer jusqu'au dernier des kidam. Ouais, effectivement, je le vois pas du tout, parce que le seul kidam dans tout ça, c'est le personnage principal. Et moi j'ai aussi un problème avec lui, c'est que après c'est peut-être que j'étais du coup, je sais pas dans quelle mesure c'est moi qui suis biaisé ou si le film fait vraiment montre d'une certaine complaisance à son égard, mais moi je trouve que le film est relativement conciliant avec lui quand même.
Ouais, il lui pardonne.
Ouais, franchement, je dirais pas qu'on va jusqu'à avoir de l'empathie pour lui, parce que quand même on reste, voilà. En tout cas, moi je n'ai pas.
Mais c'est pas impossible d'en avoir.
Voilà, franchement, c'est ça. C'est-à-dire que je trouve que on a limite un peu de peine pour lui, en fait. C'est-à-dire qu'il est vraiment soumis et que, en fait, quand on voit ces surpuissants, cet oligarque russe qui le force à lui lécher les bottes, on se dit, ouais, mais que faire, en fait. Donc, comme si, justement, le fait qu'il dise non, en fait, il n'avait pas trop le choix, enfin, qu'il dise oui, il n'avait pas trop le choix, et que si à un moment il s'avérait qu'il ose dire non, ça serait vraiment, vu le contexte, vu le cadre, un acte de résistance extrême, quoi. Et je trouve que on lui pardonne un peu. Il y a une espèce de complaisance par rapport à sa soumission à cette autorité qui est vraiment juste celle d'une oligarchie. Moi, je vois pas les autres strates de la société israélienne. Je vois pas les citoyens israéliens. Et en vrai, comme tu le dis, Louis, très justement, nous ne sommes pas à Tel Aviv. Nous ne sommes pas israéliens. J'en sais rien, mais ça serait du coup si effectivement le dernier des kidam n'est pas comme cet oligarque russe, c'est bien aussi de le montrer dans ce cas, tu vois,
mais c'est ça. Et en fait, même, je veux dire, lui, ce qu'il nous avait dit, il avait eu cette phrase, et vous l'entendrez peut-être, chers auditeurs et auditrices, dans le podcast à partir de la rencontre qui sortira bientôt sur ces ondes, que ce n'est pas le génocide de Netanyahou, c'est notre génocide à tous. Mais en fait, disons que le film ne le montre pas, ça. Voilà, c'est-à-dire que, et c'est ça, moi, qui m'a un peu gêné quand on a rencontré Nadav Lapid, c'est qu'il avait des propos qui étaient très intéressants et très intelligents, mais que je ne retrouvais absolument pas, y compris en termes de cinéma, parce que là, on parle pas mal des intentions du film et tout. Que je retrouvais absolument pas à aucun moment dans son film, quoi. Je pense aussi, là je l'ai pas dit dans la présentation du film, mais il est structuré en trois parties. Donc j'ai oublié précisément quels étaient le titre des trois parties, mais il y a la belle vie, quelque chose comme ça, je sais plus quelle est la deuxième, et le troisième c'est le chemin, voilà, mais bon, qui en fait forme une espèce de, finalement, de dialectique assez banale, c'est-à-dire que il propose une forme de résolution à la fin du film, malgré tout, alors que je pense qu'il aurait été plus puissant de montrer l'échec d'une dialectique, de montrer l'échec d'une résolution. Et pour revenir sur Nathan, ce que tu disais sur le fait que on arrive à avoir de l'empathie pour ce personnage d'une manière ou d'une autre, même au corps défendant du film, ou de Nadav Lapid en tout cas, c'est d'autant plus étrange que le film donne lui-même la clé de cette critique, puisque le personnage de la compagne de Y, elle dit non très facilement, en fait. Et le film te montre à quel point c'est facile de dire non, mais en même temps, il en fait pas un personnage intéressant de cette compagne, je trouve. On revient sur la question du débordement, c'est-à-dire qu'il ne sait plus exactement sur quelle intrigue s'apesantir, sur la fugue de la compagne à un moment, dans une scène assez, assez grotesque d'ailleurs, où elle extirpe à son employeur un chèque, enfin... Donc voilà, et ça rejoint aussi au bris ce que tu disais sur le fait qu'il ne sait narrativement, il y a des soucis.
Après, enfin, comment dire, je dirais, c'est pas forcément, je trouve, enfin, sur la question de justement, il représente pas ce côté, cette implication en fait de toute la société parce qu'il monte des castes. Alors. Je trouve, enfin, moi je dirais plutôt pas assez que pas, parce qu'il y a quand même cette séquence, alors même si elle tourne autour du personnage de Yod, où il se balade, enfin, en fait, il promène son enfant dans la rue, enfin, dans Tel Aviv, et où en fait on redescend de ces soirées UP, de la haute, etc. Et pour le coup, même si on s'y arrête pas, on n'y accorde pas plus d'importance que ça, mais en fait, on redescend quand même dans les rues et dans le quotidien de Tel Aviv. Après, c'est là qu'il y a une limite, c'est comme tu l'as dit, vu qu'on n'est pas israélien, qu'on n'a pas mis un pied à Tel Aviv ou quoi, ça se trouve, c'est qu'une partie de Tel Aviv, en l'occurrence, par exemple, la partie à côté de la plage, etc. Et donc, peut-être forcément déjà une élite. Mais à côté de ça, je me pose aussi une question, c'est dans ce choix justement de montrer Tel Aviv, déjà de montrer la société israélienne par une image de Tel Aviv et pas forcément de, enfin, je sais pas, tu vois, des colons israéliens ou ce genre de trucs qu'on voit pas par exemple dans le film. Et ensuite là-dedans de montrer Tel Aviv par une élite en fait, et une élite orgiaque, comment dire, caricaturale, etc. Comment dire, pour moi en fait ça fait sens. Précisément parce que il y a une, pour moi c'est une manière de dire justement à la, enfin du coup là ça s'accorde, enfin c'est le point d'accord en fait entre ce que lui dit de son film et ce qu'il montre, c'est une manière de dire, ben en fait même si vous vous trouvez pas dans ce film là parce qu'on ne voit qu'une élite ou quoi, c'est quand même vous entre guillemets. C'est moi, c'est là que je trouverais, enfin c'est à dire que pour le coup ces personnages d'une forme d'élite ou quoi, ça serait un miroir déformant ou révélateur, ça dépend comment on le prend.
De gens qui ne seraient pas dans l'élite.
Du kidam israélien qui ne seraient pas dans cette élite-là, oui. Qui pourraient se dire justement, mais non, enfin, moi je suis entre guillemets de la société civile, je ne suis pas responsable en gros, c'est pas moi qui décide et voilà. Et je ne dis pas que tous les Israéliens sont responsables ou quoi, mais le film en tout cas me semble faire sens à cet endroit-là, enfin, ou peut être pris comme ça en tout cas. Je ne dis pas que c'est genre rigoureusement vrai, absolu ou quoi, mais je pense que c'est une lecture qui est possible.
Oui, je vois, mais en même temps, il me semble que ça se complète trop dans sa description, c'est-à-dire qu'il kiffe faire des effets de montage pour filmer ses orgies, passer du temps sur la scène de sexe dans les oreilles, etc.
Ça, je suis d'accord.
Et qui perd du coup la proximité avec le kidam israélien, comme on l'appelle. Donc je trouve qu'il y a vraiment cette espèce de complaisance déplaisante, mais qui après n'est pas propre juste qu'au film de Nadav Lapid, qui est dans tous ces genres de films critiques de la décadence par la décadence, moi qui ont le don de me saouler assez vite en réalité. Mais maintenant, si on...
Ouais, mais c'est moins problématique. Dans un film de Ruben Östlund par exemple, oui. Comme Triangle of Sadness, qui est un film qui est moins ancré dans un contexte, tu vois, enfin il y a aussi ce truc là où je suis d'accord, moi c'est un truc qui peut m'énerver aussi de manière générale, c'est plus que ça m'énerve, là ça m'interroge vachement dans le cadre d'un film aussi ancré.
C'est ça en fait, c'est que le film n'est pas, ne se donne pas, n'a pas lieu dans un univers qui est neutre, en fait, et on est, il prétend pas le faire, mais à certains moments, faudrait, disons, oublier les conditions de production du film. Je pense, et on peut parler de...
On peut en parler.
Voilà, à une scène qui a donc lieu dans le désert. Enfin, en tout cas, Yod s'est enfoncé dans le désert avec son ex, qui est joué par Léa. Enfin, donc, pardon, qui s'appelle Léa. Et donc, ils sont beaucoup discutés, etc. C'est une espèce de quête intime, poétique. Alors, Occitane Lacurie parlait de la figure de Dante et de Béatrice, etc., qui va retrouver, enfin, il va essayer de trouver l'inspiration un peu comme il peut. Bon, et donc elle critiquait ce cliché. Et simplement, effectivement, ce qui est là où ça devient, au-delà du cliché, extrêmement questionnable, c'est qu'ils arrivent à un promontoire, à une colline qui s'appelle la colline de l'amour, qui est en fait un point de vue sur Gaza depuis Israël. Et donc on voit la skyline, ou ce qu'il en reste de Gaza, on voit la fumée s'élever, on entend le bruit des drones, des avions, de là où on est, c'est vraiment, on est à 600 mètres hein, de Gaza. Et donc là, et au fond même ce qui s'y passe, c'est-à-dire que le héros va repêcher son ex, n'a pas tant d'importance que le geste, moi, qui m'interroge vraiment, une après-midi, arriver avec une équipe de tournage, avec un script, avec une équipe son, avec un chef-op, avec des assistants lumière, etc., etc., et filmer alors même que de l'autre côté, il se passe ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, et ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait à l'instant sur la normalité et tout, de comparaison, j'en ai entendu, que ce soit sur de la critique presse pro ou bien sur des réseaux plus informels comme Sens Critique ou Letterboxd, de comparaison avec la zone d'intérêt de Glazer, sur justement la question de la normalité, de la culpabilité de tout le monde, d'Equidam, etc., alors qu'il y a des crimes horribles qui se passent juste à côté. Simplement, Glazer, il ne filmait pas vraiment la maison de Heuss, alors qu'il y avait Auschwitz de l'autre côté du mur. Et c'est là qu'en fait, moi, je ne peux pas faire abstraction à nouveau de ces conditions de production-là, et c'est quelque chose qui est... Dont d'ailleurs, le film, en fait... que le film te fait oublier dans le courant du film, c'est-à-dire qu'il arrive à faire rentrer ce qui se passe à Gaza dans sa fiction, et c'est très bizarre, et en vérité, ça pourrait être vu comme une force, un peu te mettre mal à l'aise, etc. J'arrive juste pas à déconnecter du fait que non, c'est pas une fiction. Et même si, et Aubry, tu parlais de la question de la fiction et du seul moyen pour l'aborder, et même si je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut aborder ça par la fiction aussi, peut-être pas en l'intégrant de façon aussi maladroite.
Je suis d'accord. Enfin, cette séquence-là pose un énorme problème. Et j'écoutais tout à l'heure, mais il y a un critique récemment qui l'a mis en exergue de façon assez claire, Emmanuel Burdeau, pour ne pas le citer, qui disait qu'en gros, de toute façon, il y a problème dans tous les cas, parce que soit tu tournes cette scène en représentant Gaza. En utilisant en fait la vraie Gaza dans le fond de ton plan, ce qui pose un problème éthique, moral, artistique, enfin tout ce que tu veux, qui est assez dingue, scandaleux en fait. Et dans le même temps, si tu représentes Gaza par des effets spéciaux, par de la reconstitution ou des trucs comme ça, il y aurait aussi potentiellement une forme d'indécence là-dedans.
Mais en même temps, tu vois, je veux dire...
Après, le film se coince dedans tout seul.
Oui, c'est voilà. Ça, il y va tout seul. Voilà. Et je pense que là, ce que dit Burdeau, donc apparemment, c'est... il a le choix aussi de faire du hors-champ.
Oui,
et
aussi.
Je pense que le hors-champ aurait été même une très belle solution.
Parce que tu vois, tu parles de la zone d'intérêt. Sur cette question du représentable, de l'irreprésentable, dans la zone d'intérêt, effectivement, on ne voit pas Auschwitz pendant tout le film qui se situe dans une fiction. Et... à la fin du film, on entre dans Auschwitz, mais on n'est plus dans la fiction. On entre dans quelque chose de documentaire où vraiment, c'est des images contemporaines. On filme vraiment, on filme le, le, le musée Auschwitz, en fait, ce qui avait, allait avec son lot de questions, etc., que le film soulevait. Mais on n'était plus dans la fiction. Je pense aussi à Euryl Payne, par exemple, où il y a une scène où les personnages vont visiter Auschwitz. Et en fait, au moment où il rentre, quand je l'avais vu, je me disais « Ah merde, là, quand même, il va y avoir quelque chose d'un peu gênant. » Et en fait, non, parce que, pareil, la fiction s'arrête. On suit les personnages, on filme leurs réactions, mais il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de... Enfin, c'est limite comme si on filmait vraiment les acteurs qui, au milieu d'une journée de tournage, sont rentrés dans Auschwitz pour le visiter et ont interrompu... On est dans un registre plus documentaire. C'est aussi possible. Là, ce qui est vraiment très embarrassant, c'est la superposition des deux, en fait. C'est ce côté, effectivement, d'une fiction... En plus, peu importe ce qui est représenté, peu importe ce qui se passe, mais je veux dire, c'est en plus effectivement une scène de retrouvailles amoureuses où ils s'embrassent et à l'arrière-plan, il y a Gaza qui se fait bombarder. C'est quand même effectivement. Moi, c'est vraiment cette scène-là.
Pour le coup, moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Cette scène-là, ce mode de représentation-là, pose un problème. Et d'autant plus que je trouve pour le coup que la. Alors, pas l'intégralité, parce qu'il y a plein de trucs, comme tu l'as dit, il y a l'espèce d'amourette et tout, mais je trouve que ce qui met en place dans cette partie-là, la dynamique entre les deux personnages, pour le coup, est assez intéressant. Notamment parce qu'en fait, donc on l'a dit, le personnage de Yod, en fait, au tiers du film, du coup, quitte Tel Aviv, sa femme par l'occasion, enfin, il la quitte pas définitivement, mais il part, en gros, quoi, pour retrouver son ex. Trouver une forme d'inspiration quoi pour la chanson là qui doit mettre en musique pour le gouvernement israélien et en fait là-dedans c'est tout con, il essaye de fuir son présent, de fuir ce qu'on lui demande de faire, de fuir ce qu'on lui met en face de la gueule, c'est-à-dire d'un côté lui sa situation d'espèce d'esclave des élites de Tel Aviv, elles-mêmes et le conflit la situation à Gaza qui a déjà été évoquée précédemment dans le film, on n'en a pas parlé, mais avec cet effet, c'est les effets sonores qui accompagnent les moments où il voit sur son smartphone des news, des bilans en fait, tout simplement du nombre de morts qui évolue à Gaza et qui s'accumule de plus en plus. Lui, il fuit la réalité du présent. En allant vers son passé, ce qui pour moi est déjà quelque chose de pas anodin parce que c'est mine de rien ce qui est fait dans la rhétorique pro-israélienne, c'est-à-dire d'aller chercher dans le passé des oui mais enfin nous c'est comment dire enfin le Israël en gros est leur terre ou ce genre de truc tu vois enfin ou même de se référer à la Shoah de façon erronée etc. Enfin il y a toute une rhétorique du retour vers le passé comme ça, et en fait ce que fait Nadav Lapid à travers ce personnage dans cette séquence là pour moi, c'est qu'il lui dit il te montre ce personnage là fuir vers son passé, s'abstraire du présent, et en fait quand tu t'abstrais du présent là-dedans en tout cas tu te retrouves face à Gaza et en fait la réalité te rattrape de plein fouet parce que le passé et le présent ils sont entre guillemets au même endroit à cet endroit là
Il y a toute une question du rapport à la terre dans la séquence désert qui est pas inintéressante pour le coup. Et pour continuer un peu sur cette séquence-là aussi et rebondir sur ce qu'on disait sur les questions de représentation, moi je trouve que une des scènes, sinon la scène la plus forte du film, c'est une scène qui pour le coup ne fait absolument pas usage de montage psychédélico absurde, qui est la scène de question de la représentation entre guillemets des massacres du 7 octobre où Léa, l'ex de Yod, va comme psalmodier tous les actes qui ont été commis à ce moment-là, de torture, de barbarie, de viol, etc. Et là, disons qu'il n'y a plus aucun, voilà, il n'y a plus aucun effet de montage. La caméra est posée sur la voiture, elle est secouée, l'image n'est pas toujours nette, etc. Et en même temps que Léa, sans les larmes qui lui montent aux yeux, parce que donc, son travail a été de voir les vidéos des atrocités commises le 7 octobre, pendant plusieurs mois en boucle, etc., pour les faire parvenir, on va dire, au reste du monde. Mais d'ailleurs, plus dans un travail presque d'exploitation de propagande, son travail n'était pas, est loin d'être tout blanc ou quoi que ce soit, évidemment. Mais donc cette scène-là est très, et je la trouve assez juste, en fait. Je trouve qu'il, là, Nadav Lapid atteint une justesse
Je suis d'accord.
Par aussi le jeu de ses interprètes parce que ils sont doués. C'est le, un des points du film.
Ils sont détestables. Ils sont.
Mais voilà, c'est ça. Et donc voilà. Et c'est là que j'étais en mode. Mais, donc tu as des idées, Nadav Lapid. Tu es intelligent. Tu sais montrer. Enfin, tu sais là en l'occurrence montrer quelque chose de terrible, ultra contemporain, en l'intégrant dans ta fiction et en. Etc.
Je dirais même plus que la force de cette scène en fait elle réside alors non seulement effectivement dans le jeu des acteurs et particulièrement de l'actrice qui est super forte dans cette scène.
On a trouvé son nom.
Ouais, le montage qui laisse le temps en fait long à cette séquence là, mais aussi sur le dispositif tout bêtement parce qu'en fait la singularité de cette séquence là, mis à part qu'elle parle du 7 octobre. C'est qu'en fait,
elle s'appelle Naama Price. Voilà.
C'est parce qu'elle parle du 7 octobre par les mots, par le son. C'est-à-dire qu'en fait, le 7 octobre, ce qui est assez étonnant par rapport à l'image en fait, qu'on a pu avoir du film pendant pas mal de temps, où on se dit, ah, c'est un film sur le 7 octobre ou un truc comme ça, et qui même, lui, fin, même dans la distribution, il y a quelque chose qui cultive ça, vu qu'on met en avant le côté fête dans le film, tu vois. Enfin, je sais pas, moi en tout cas, il y avait une espèce de connexion qui s'était opérée en mode ah, fête, etc. Et donc là, ça apparaît par les sons, alors qu'effectivement, quelques plans après, Gaza apparaît visuellement. Et il y a comme une espèce de manière de représenter ces deux événements-là comme étant fondamentalement liés et en même temps séparés, de mettre l'un du côté de la parole, l'autre du côté du visuel et des bruits, en tout cas, plus que de la parole. Des mots en tout cas et ça pour moi ça rejoint ce que Nadav Lapid pouvait dire quand il disait, enfin en tout cas c'est comme ça je le comprends je pense, quand il disait qu'on pouvait pas comprendre Tel Aviv sans comprendre Gaza et inversement pour moi, c'est un peu, comme tu l'as dit, c'est une des séquences les plus fortes du film, une des plus réussies. Et je trouve que c'est là, en fait, que le film, pour moi, montre son intérêt. C'est-à-dire que c'est précisément là qu'on comprend comment une fiction, entre guillemets, banale, qui parle d'un artiste esclave du pouvoir, qui pourrait, en fait, entre guillemets, se passer autre part dans le contexte, etc., se retrouve traversée par l'histoire en cours, par un massacre d'un côté, un génocide de l'autre. Et comment elle intègre ces éléments-là dans la fiction et dans la représentation de la fiction. Enfin, pour moi, c'est précisément là que le film montre son intérêt. Mais bon, effectivement, le film est problématique sur plein d'aspects par ailleurs. Peut-être un dernier truc à dire avant qu'on conclue. Parce qu'effectivement, le film a suscité beaucoup de remous critiques, que ce soit professionnel ou non, comme tu l'as dit. Et je trouve que il y a parfois eu une tendance à assimiler le film à sa réception parce que c'est vrai que le film a été très vite érigé comme entre guillemets la bonne satire du public occidental ou de la critique, enfin du public intellectuel en tout cas comme en fait la chose qui te satisfait parce que tu te dis ah mais j'ai vu un film important sur le sujet et en fait au final tu penses plus à ce qui se passe vraiment pour le coup, je trouve que ça, c'est vraiment la. Alors, je suis d'accord avec ça. Il y a tout à fait de ça dans la réception dithyrambique du film, sa promotion, etc. Pour autant, je trouve que. Enfin, j'irai pas jusqu'à l'assimiler au film en lui-même.
Oui, ça, je suis assez d'accord. C'est un débat parallèle, mais c'est vrai quand même que le traitement médiatique du film. Et vraiment, tous les médias qui se sont empressés de l'ériger, comme tu dis, en le film politique sur le génocide et sur le conflit israélo-palestinien, vraiment le film qu'on attendait et que voilà, on va pouvoir ériger en étendard. C'est assez embarrassant, surtout venant d'énormément de médias, de journaux qui, évidemment, pendant les deux dernières années, qu'on n'a pas trop entendu, et là, qui sautent sur l'occasion et qui applaudissent très très fort le fait qu'un réalisateur israélien ait fait un film qui ne soit pas un film résolument de propagande. Mais voilà, c'est clair que le traitement médiatique du film pose aussi question et franchement assez... Bon, voilà. Mais c'est effectivement pas le problème du film. Enfin, on peut pas trop dire que le film est responsable, ouais, ouais, L'Oréal.
Le film est utilisé, comment dire, pour se donner bonne conscience, en fait, par beaucoup de gens, comme un écran, en fait. Et disons que, enfin, je pense qu'on peut en faire un autre usage, en tout cas.
Eh ben, on a tenté, en tout cas, d'en faire un autre usage ici pendant une bonne grosse demi-heure au comptoir. Et ben, les conseils, tout de suite. Effectivement, c'est l'heure des conseils. Vous les attendiez, il vous avait manqué. Nathan, quel est le tien?
Alors, mon conseil, c'est le film L'intérêt d'Adam de Laura Vandel, je sais pas trop comment ça se prononce.
Vandel, je pense.
Vandel, voilà, belge apparemment. c'est un petit film, c'est un film très court. Il fait vraiment genre 1h13, quoi. C'est un film assez simple, il y a pas du tout de musique, il y a pas de, enfin, la réalisation est extrêmement efficace, très très nette, ça va droit au but, et en même temps c'est assez virtuose dans la manière de construire cet espace qui est, donc ça se passe dans un hôpital, en fait, puisqu'on suit une infirmière pédiatrique jouée par Léa Drucker, qui on va la suivre pendant toute une nuit à l'hôpital, et notamment suivre la manière dont elle va s'occuper et traiter un enfant, Adam, qui a été hospitalisé pour malnutrition, parce qu'en fait, voilà, sa mère le nourrit comme s'il avait 6 mois alors qu'il a 4 ans, ou plus même. Enfin bref, c'est un très très très... C'est vraiment un très joli film, c'est plombant en vrai, mais c'est extrêmement juste, et notamment, je pense qu'il faut aller le voir notamment pour le trio d'actrices, Léa Drucker, Anna-Maria Bartolomei qui joue donc la maman, et le petit Adam qui est joué par Jules Delsart. Je sais pas s'il y a un minimum d'âge pour le César de la révélation masculine, mais... voilà, il y a un gros candidat. Non, franchement, les trois sont très 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 c'est vraiment impressionnant, et ouais, ça m'étonnerait, enfin ça mériterait quelques petits Césars, franchement.
Je pense que ça va encore être dans les Césars pas donnés, mais après lesquels on va gueuler.
Ouais, ouais, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, allez voir ce petit film.
Merci beaucoup, Nathan. Aubry, de ton côté, qu'est-ce que tu nous recommandes pour la semaine?
Il y a un festival de cinéma très indépendant à Lyon, et plus particulièrement de cinéma antiraciste, antifasciste, écologique, décolonial, bref, de cinéma chouette et, encore une fois, très indépendant, qui se tient à Lyon, qui s'appelle Pour la suite du monde, tout et qui fait. Se tient jusqu'au 7 octobre encore. Donc, il y a plein de séances partout dans des divers cinémas indépendants lyonnais, notamment le Zola, à Villeurbanne. Et donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour, parce que c'est l'occasion de découvrir des films que vous ne verrez sûrement pas ailleurs parce qu'ils n'ont pas la distribution suffisante. Je pense notamment à des films d'outre-mer notamment, mais aussi à des films internationaux, et souvent en fait en présence des réalisateurs, réalisatrices, d'équipes de films. Donc c'est vraiment, enfin c'est très accessible, en fait c'est à côté de chez vous, entre guillemets, à Lyon, et n'hésitez pas à y faire un tour.
Merci beaucoup, Aubry. Et quant à moi, je vous recommande, pour rester dans le thème du débat, un documentaire qui est sorti donc la semaine dernière de la réalisatrice iranienne d'origine Sepideh Farsi, qui s'appelle Put Your Soul and Your Hand and Walk, qui est déjà un des plus beaux titres de l'année, je dirais. Et qui veut donc, peut se traduire par... Enfin, en tout cas, les sous-titres le traduisent par « Mets ton cœur sur ta main et marche ». Et donc, il y a un documentaire réalisé à partir des entretiens que Sepideh Farsi a menés avec une photo-reporter palestinienne, donc vraiment bloquée à Gaza sur toute l'année 2024, qui s'appelle Fatem Hassona, qui a à peu près notre âge, hein, qui avait 24 ans, puisqu'elle a été tuée dans une frappe israélienne une semaine après l'annonce de la sélection du film à Cannes. Voilà. Et donc, en fait, pardon, je suis désolé, j'ai l'impression que ça sature pas mal. Et donc, en... ouais, c'est ça. C'est... Oui, ça sature beaucoup quand même.
Là, là, tu satures dans mon oreille.
Je sature pas sur l'écran, mais bon.
Moi, j'entends pas.
Bon. Voilà, je vais faire comme ça. Et donc, en fait, la plus grande force de ce film, c'est justement c'est sa justesse. Je parlais de justesse pas mal pour le film de Nadav Lapid, et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et la manière dont la réalisatrice met en place son dispositif. C'est-à-dire que, en fait, l'écran du téléphone va redoubler l'écran de la salle de cinéma, et il n'y a pas l'effet de dissonance cognitive qu'on peut trouver dans d'autres festivals de documentaires, ou même juste en allant voir un documentaire. Quand, bah, quand le film prend fin, tu te retrouves dans une salle de cinéma, en fait, tout simplement, entouré de gens qui n'ont jamais ces problèmes, et tu te rappelles que toi-même, tu n'auras jamais ces problèmes, etc. Enfin, probablement. Et donc, tu applaudis avec autosatisfaction un documentaire qui t'a immergé pendant une heure, trois quarts, deux heures, voilà, dans l'horreur d'une situation, que ce soit la Palestine ou autre, d'ailleurs. Donc là, le film, qui consiste donc à... 90% des entretiens juste par visio WhatsApp, donc vraiment un téléphone filmé avec un autre téléphone. Et donc, faut se faire, hein, par contre, au fait que la connexion est mauvaise, forcément, et que ça saute régulièrement, et ça, voilà, ça peut être, ça peut surprendre. Mais bref, en tout cas, c'est vrai que nous, on est donc coincés, entre guillemets, avec Sepideh Farsi dans le confort occidental, où elle se trouve en continu. Jamais elle va réussir à aller à Gaza, évidemment. Et on ne peut que être soupirer de douleur et être mis à notre impuissance, mais en fait cette impuissance-là n'exclut pas l'information, elle n'exclut pas l'émotion, elle n'exclut pas la colère et elle n'exclut pas la représentation de Gaza, puisque en fait il y a les photographies donc de Fatem qui sont intercalées de temps en temps, mais en même temps je trouve que enfin, on peut poser la question de la représentation de ce qui se passe à Gaza. Si elle n'est pas résolue ici, en tout cas, Sepideh Farsi propose une résolution possible qui est très intéressante et qui prend en compte sa situation d'énonciation en tant que cinéaste occidental, puisqu'elle vit en Occident depuis très longtemps, et en même temps de la nécessité de parler, de visibiliser, de montrer au cinéma ce qui se passe en Palestine. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver comme d'habitude sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci beaucoup à tous les deux, Nathan et Aubry, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs.
Merci à Olivier Neveu.
Et aux... Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du retour de Paul Thomas Anderson. Comme d'habitude, ce sera disponible sur transistor.fr. et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous, et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.